4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, salut Gislain.
Salut Philippe.
Comment vas-tu?
Ça va, et toi?
Ouais, très bien, très bien. Il pleut, mais c'est pas grave. Hein.
Non, ouais, c'est fini.
Le pourri, hein, mais...
c'est fini le temps, le mois de mai, les fleurs volent au vent, etc. Tu vois, là,
ouais,
enfin, elles sont plombées par la pluie, les fleurs.
C'est pas grave, on a le printemps au cœur, on va dire.
Waouh.
C'est beau, hein?
Ouais, c'est super beau.
Bon, deuxième émission de mai. On va parler... virilité, crise du masculin, est-ce que véritablement c'est un truc qui existe ou est-ce que c'est un phénomène fantasmé? On va développer ça, je sais pas, sur au moins trois émissions, peut-être plus, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Ouais, c'est un sujet qui nous a bien, intéressé en fait.
Ouais. Mm-hmm. Je te propose qu'on commence avec un Québécois.
Ah,
que
cool.
J'ai découvert sur Thinkerview, une fois de plus.
C'est ta chaîne YouTube préférée?
Pratiquement, ouais, pratiquement. Alors, il a été invité à plusieurs reprises, c'est un politologue, et il a travaillé aussi sur la crise de la masculinité.
Ce qui tombe bien.
Ce qui tombe pas mal pour nous. Mythe ou réalité? Alors, bon, dans les sons que je vais faire écouter, on va vite s'apercevoir de son point de vue là-dessus.
Ouais.
Il s'appelle Francis Dupuis Derry.
D'accord.
Je te propose un premier son.
Allez, on y va.
C'est parti.
Alors, c'était donc le sujet de cet autre livre que je vais présenter très très rapidement dans l'entrevue qu'on avait fait la dernière fois, mais en fin d'entrevue, qui est un projet que je mène depuis facilement une quinzaine d'années, en fait, d'arriver à essayer de comprendre cette idée que la masculinité serait en crise. Pourquoi est-ce qu'on dit ça, qui dit ça, qu'est-ce que ça a comme effet de dire ça, et donc et aussi d'en proposer une lecture critique, parce que selon moi c'est un discours fallacieux, c'est un discours faux en fait. Et donc pour le résumer en quelques mots, le discours de la crise de la masculinité, c'est l'idée que les hommes vont mal, les hommes souffrent.
C'est quoi les hommes?
Les hommes, c'est nous, toi, moi, les hommes, mais qu'ils souffrent en fait à cause des femmes et à cause des féministes et à cause des valeurs féminines qui domineraient la société. Et donc les hommes seraient d'une certaine manière des victimes. Et avec ce discours de crise de masculinité, on prétend donc qu'on souffre, qu'on est des victimes, et que donc on doit prendre notre souffrance en considération, et qu'on doit donc considérer que les femmes, surtout les féministes, sont un problème. C'est la cause de la crise. Et donc il faut les critiquer, il faut les endiguer, il faut les neutraliser pour qu'on aille mieux. Et dans ce discours, il y a nécessairement aussi l'idée d'une humanité divisée en deux sexes avec des identités très qu'on pense qui sont très précises, avec des valeurs ou des comportements ou des attributs, qu'on considère très, très distincts. En fait, c'est quand on parle des sexes opposés, là, on est vraiment dans une logique de sexe opposé, et donc le masculin serait, on connaît les stéréotypes, hein, nous serions, parce que nous sommes des hommes, forts, actifs, dans la compétition, dans la combativité, nous serions autonomes, déterminés,
ce qui crée d'ailleurs des grosses séquelles.
Absolument, on va y revenir très certainement. Et plus rationnel et raisonnable aussi que les femmes, que le féminin qui serait associé à...
L'hystérie.
Bah déjà à l'hystérie, oui, quand ça va mal, mais quand ça va bien, disons, à la douceur ou au care, ce qu'on appelle le care en anglais, donc la bienveillance, le prendre soin de l'autre, la relation avec l'autre et l'émotion plutôt que la raison, la collectivité plutôt que la force individuelle. Certains vont dire même l'égalité. L'égalité, c'est quelque chose de féminin, alors que l'homme, lui, est dans la compétition, dans la hiérarchie, dans la structure, et dans cette idée qu'il y a deux sexes différents avec des valeurs ou des identités ou des caractéristiques différentes, on va souvent mettre du côté du masculin l'efficacité, sans la définir, mais on va dire le masculin, c'est être efficace, être rationnel, alors que le féminin, c'est toujours un peu plus flou. Et donc, une fois qu'on a construit ces deux représentations, qui sont des représentations évidemment en grande partie imaginées, même si ça procède de notre socialisation. Après ça, on est socialisé comme des hommes ou comme des femmes, dès qu'on est, des fois même avant de naître, nos parents projettent quand ils savent « Ah, ça va être un garçon, ça va être une fille », déjà il y a des projections au niveau du métier, au niveau de la couleur de la chambre, au niveau des activités, déjà on prévoit des choses alors que l'individu n'est même pas né. Mais donc ça nous socialise, mais tout ça c'est de la construction, et en grande partie c'est de la construction imaginaire. Mais dans la crise de la masculinité, c'est cette idée qu'il faudrait en fait revenir à cette identité masculine et surtout se méfier de ce qui est féminin, des attributs et des caractéristiques et des qualités féminines qui viendraient intoxiquer comme parasiter, qui seraient en fait des éléments pathologiques si on les retrouve chez les hommes ou dans le masculin.
Donc c'est chronique.
C'est vraiment une conception de séparatiste.
C'est chronique de psychiatriser les gens pour les corneriser dans la crise de la masculinité. C'est-à-dire qu'on dit que les femmes sont hystériques, qu'elles sont folles, qu'elles blablabla pendant 107 fois parce qu'elles sont complètement...
Oui, ce qu'il faut. D'ailleurs, au niveau du blabla, toutes les études en sociologie de la communication et en psychologie montrent que les hommes, on parle beaucoup plus, beaucoup plus longtemps. On interrompt plus souvent les femmes, on est plus affirmatif, les femmes parlent moins, osent moins interrompre, posent plus des questions. Donc ça, c'est l'idée de la femme bavarde, c'est vraiment un stéréotype. Et oui, donc dans la crise de la masculinité, dans le discours de la crise de la masculinité, il y a ces références qui relèvent beaucoup de la sorte de psychologie populaire ou de psychanalyse populaire ou de références aussi un peu floues à l'âge des cavernes ou à l'ADN ou aux chimpanzés avec des mâles alpha. Donc on a toutes ces idées un peu qu'on a appris de Walt Disney ou dans des albums d'enfants qui nous font croire qu'on est fondamentalement différent. Alors que, pour revenir à ces idées là de deux sexes complètement différents par rapport à des attitudes ou des comportements ou des capacités différentes, en fait, moi je trouve que c'est absurde de voir l'humanité comme ça, parce que vraiment, si c'était vraiment le cas, on se priverait d'une moitié de notre humanité, ce qui serait quand même dommage. Et en fait, je pense dans la réalité, même si évidemment il y a des tendances chez les uns et chez les autres qui peuvent être plus fortes, en fait, on a en nous toutes ces capacités. Et dans la journée, on peut des fois être dans le care, et des fois être dans la compétition, et des fois dans l'autonomie, et des fois dans la dépendance, et des fois dans la douceur, et des fois dans... C'est humain, c'est pas masculin ou féminin.
Quand tu dis dans le care, c'est dans l'attention, c'est ça dans
la... Oui, la bienveillance, l'attention, prendre soin de l'autre... Les hommes peuvent évidemment prendre soin des autres. D'ailleurs, même dans des organisations, par ailleurs, qui sont identifiées comme extrêmement virilistes et combatives. Je prends un exemple, ça va paraître un peu bizarre, hein, mais je prends l'exemple de l'armée, par exemple. Ben, dans l'armée, évidemment, l'objectif, c'est de tuer des ennemis. Mais en principe, il faut prendre soin du camarade à côté. Si on ne prend pas soin du camarade à côté, la cohésion de l'armée ne fonctionne pas. Donc même dans quelque chose qui est aussi viriliste et aussi identifié à la masculinité que l'armée, il y a du care, en fait, entre soi. Sur le champ de bataille, il ne faut pas laisser le camarade derrière soi.
Donc historiquement parlant, on a formaté le discours.
Alors ?
Ouais, c'est intéressant, en fait, parce qu'il décrit... comment dire, il décrit à la fois un problème de genre, il décrit à la fois un problème de patriarcat, ouais. Il décrit plein de choses, en fait.
Ouais, tout à fait. Mmh. Et j'aime bien, enfin, son discours à la fin où quand il renvoie à chacun d'entre nous et à toutes les potentialités qu'on peut avoir
en
nous, masculine ou féminine. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a, peut-être pas toujours, mais qui me semble évident depuis longtemps. Alors peut-être que c'est dû à mon identité de gay, mais peut-être que c'est plus évident pour quelqu'un qui est effectivement homo de percevoir ça à travers soi. Mais ça me semble quelque chose de tellement évident. Je ne sais pas si c'est ton cas ou si c'est quelque chose qui a fallu déconstruire avant.
Oh ben non, moi depuis tout petit, je sais que être un garçon, c'est pas forcément être conforme à l'image, à l'image que la société nous donne et nous demande d'avoir quand on est un garçon. Voilà quoi.
Mais je pense que c'est peut-être dû effectivement à notre expérience d'emblée de personnes décalées par rapport aux normes sociétales.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est quand tu es dans le décalage que tu as suffisamment de recul pour voir que autour de toi, les gens qui sont aussi une bite entre les jambes, ils se conduisent pas comme toi et que pourtant aussi, enfin tu vois, il y a, on est pareil, en même temps, on se conduit pas pareil. Enfin, ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités d'être un garçon.
Tout à fait. Mais après, je pense que voilà, ces emprises de normes sociétales, elles peuvent avoir un impact aussi hein, sur des personnes qui ont des identités marginales à la base, mais ont peut-être été plus conditionnées, on va dire, par ces normes de société.
Oui.
Je vais te faire écouter un deuxième son, donc c'est le même chercheur, donc notre ami Francis, québécois. Là, il est interviewé sur le plateau de France 24, et en fait, il parle de cette pseudo-crise de la masculinité en parlant d'un point de vue plus historique et en évoquant le fait que c'est pas quelque chose qui est d'actualité, c'est déjà quelque chose qui a été perçu au travers de l'histoire.
Ok.
La crise de masculinité, c'est avant tout un discours, et c'est un discours de crise, c'est-à-dire, d'où l'expression « faire des crises », c'est-à-dire que les hommes, effectivement, sont en colère, enragés, même dans certains cas, et même, ça peut même prendre des formes extrêmement violentes. Par exemple, même de meurtre. Par exemple, quand les femmes ne sont pas à la place qu'on veut qu'elles gardent.
Alors, c'est quelque chose de très ancien, qui se retrouve partout à travers le monde. Vous citez notamment le philosophe Caton, retour à l'Antiquité, il dit « Les femmes sont devenues si puissantes que notre indépendance est compromise à l'intérieur même de notre foyer ». Vous pouvez nous raconter dans quel contexte il
est ? Oui, alors c'est complètement incroyable, mais c'est très significatif, je pense, c'est que Caton s'offusque que les femmes romaines à l'époque voulaient porter des vêtements trop colorés et voulaient conduire des chars.
Donc, en tout cas, elles avaient protesté parce qu'on ne voulait plus qu'elles
portent. Exactement, c'est l'interdiction de conduire des chars. Et donc, lui s'offusque et donc dit, suite à ça, l'homme romain est dominé à la fois donc, dans l'espace public et l'espace privé, alors qu'on sait qu'à l'époque de Rome, donc dans l'Antiquité, le pater familias, donc le droit de l'homme sur sa famille, sur le domicile, en fait, est absolu. Donc, ça, c'est un très bon exemple. Vraiment, il est très ancien, donc c'est intéressant. Si on voit que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est un peu une des thèses de mon livre, et qu'il y a une sorte de
réaction
d'expression de panique, même quand les femmes en fait demandent quelque chose de finalement très anodin, quoi.
De très anodin. Alors, vous passez l'histoire en revue, l'histoire européenne notamment. Au Moyen Âge, la société a l'air un petit peu plus égalitaire, mais ça se crispe de nouveau autour du XIIe siècle, la chasse aux sorcières, et puis ensuite au XVIe siècle, avec la politique nataliste en fait.
Effectivement, avec la Renaissance et la modernité, il y a ce que Silvia Federici a appelé le nouvel ordre patriarcal moderne. Et donc là, effectivement, ça se crispe. Et donc, à partir du XVIe siècle, là, j'ai documenté vraiment une série de discours de crise de masculinité dans des contextes, que ce soit dans le Royaume d'Angleterre, dans le Royaume de France, pendant la Révolution française, au XIXe siècle, etc. Ça n'arrête pas. L'homme semble tout le temps en crise, en fait.
Oui, en crise, ça veut dire qu'en fait, il se sent menacé par une femme qui prendrait trop de pouvoir, finalement.
Exact. Que les femmes sont trop masculinisées, que les hommes sont trop féminisés, ou ne seraient plus capables de jouer le rôle qu'un vrai homme devrait jouer, soit dans la famille, soit dans le couple, soit dans l'espace public.
Et avec donc cette idée qu'il y a une vraie opposition entre masculin et féminin, et des valeurs masculines et féminines. Oui. Et d'ailleurs, il y a
J'aime bien le terme opposition, parce que c'est vraiment ça, c'est pas simplement une différence qui serait complémentaire, comme on entend des fois, mais cette conception, elle porte vraiment sur des identités opposées, avec des valeurs très positives pour les hommes, des valeurs moins intéressantes pour les femmes. Et c'est une relation hiérarchique. Évidemment, le masculin est toujours supérieur au féminin.
De domination. Et vous dites d'ailleurs, le masculin est donc associé à la hiérarchie, la domination, et serait donc incompatible par essence avec la démocratie.
Oui, et avec l'égalité. C'est pas moi qui le dis, c'est des psychologues, c'est des interprètes de l'identité masculine qui disent, nous, nous sommes faits, biologiquement, génétiquement, de par nos ancêtres qui chassaient le mammouth, semble-t-il, à être compétitifs, à aimer les structures hiérarchiques, à créer de la structure hiérarchique.
C'est édifiant quand même.
Ouais. Après, sur le dernier point, récemment, on découvre, enfin depuis quelque temps, enfin, ça fait longtemps qu'on le sait, mais ça commence à se savoir, voilà, dans le grand public ces derniers temps, que le mythe du chasseur-cueilleur, enfin le mec qui allait chasser le mammouth pendant que la femme est tricotée à la maison, ça n'existe pas.
Non, tout à fait. Ouais.
Ça n'existe pas.
Ouais.
Et dire
non, ça c'est vraiment effectivement des constructions politiques. Hein,
ah ouais, bien sûr. D'accord. Et voilà. Et donc c'est pour ça à dire qu'on est biologiquement fait pour dominer, etc. Je sais pas, ça me fait bizarre.
Non, mais ça c'est pas son discours. Ah. Hein. C'est il dénonce ça effectivement.
D'accord.
Et ouais. Lui, ça fait partie effectivement de ce qu'il dénonce, c'est-à-dire ces constructions politiques qui en fait créent tout un pseudo-mythe qui conditionne aujourd'hui les identités masculines, féminines, et donc du coup nous oppose alors qu'à la base...
Ouais. Et ça rejoint ce que disait Françoise Héritier, qui est que la biologie, ça se construit
exactement.
Depuis des millénaires.
Exactement,
quoi.
Ouais. Ben ça je pense que au fur et à mesure des émissions qu'on va faire, on va y revenir régulièrement, parce que les chercheurs un peu que je suis allé écouter, ils ont ce discours-là de déconstruction. C'est phénoménal, quoi. Petite pause musicale.
Ouais.
Allez, c'est parti. Bon, des ça annonces. C'était Mead.
Mead.
Ça s'appelle Let You Speak. Donc il est français, mais il chante en anglais.
Ah.
Pas comme Barbara Pravi.
Ouais.
Ouais, parce qu'on a parlé Eurovision pendant la pause musicale. Quand même.
Oui, oui. Donc, ben, on a des discussions de PD pendant la...
C'est ça, franchement. Bon, je te propose qu'on retrouve Francis Dupuy-Déry. Deuxième extrait de son interview sur Thinkerview. On va conclure... Le son, il dure à peu près 6 minutes. On va conclure avec lui. Et alors, il va nous faire découvrir une notion que je trouve... qui m'a beaucoup parlé. Je t'en dis pas plus, on écoute et on en reparle brièvement après parce qu'il faut pas qu'on dépasse 30 minutes.
Allez, on y va vite alors.
L'identité masculine et l'identité féminine, j'aurais peut-être dû commencer par ça, ce sont des identités politiques. Pourquoi je dis que ce sont des identités politiques? Parce qu'en fait, être un homme implique tendanciellement, je dis toujours c'est tendanciel, c'est de manière générale, avoir certains privilèges, avoir certains, la possibilité d'avoir d'exercer des rapports de domination, d'avoir des attentes et d'obtenir, même quand on ne demande rien d'ailleurs, des services de la part de femmes, que ce soit notre mère, notre conjointe, notre sœur, une amie, etc., on va nous servir. Et à l'inverse, l'identité féminine est aussi une identité politique parce qu'elle est, elle est en interaction avec l'identité masculine dans des rapports inégalitaires et dans des rapports hiérarchiques. Et des rapports inégalitaires, y compris au niveau du travail. Qui fait le travail, qui fait le travail gratuitement, des ressources, du contrôle des ressources, de la propriété, etc. Donc ça c'est politique, c'est pas psychologique, c'est pas affectif, c'est pas chromosomique, c'est pas hormonal, c'est des rapports politiques. Et il y a différents noms pour parler de ce système, la monstruosité dont parle monsieur ou madame, là, je sais pas c'est qui écrit, ou c'est peut-être une personne trans d'ailleurs, je sais pas, mais j'en doute très fortement. Mais je dois être un homme, c'est ce genre, comme on dit, c'est-à-dire identifié comme tel à la naissance et dont son identité de genre correspond à son sexe identifié à la naissance. Mais pour parler de ce système, il y a différents termes. Il y a la notion de patriarcat, il y a la notion de sexisme, il y a la notion de phallocratie, qui là évoque justement la question du pénis et des testicules et tout ça, qui semble intéresser monsieur. La notion de machisme, qui est une sorte d'attitude. Et il y a un terme qui est peu utilisé en français et peu utilisé en anglais aussi, mais qui vient en fait des afro-américaines et des féministes américaines, comme Frances Beals, je ne sais pas comment on prononce, B-E-A-L, qui était une afro-féministe dans les années 70, ou un collectif comme les Radical Lesbians, au début des années 70 aux États-Unis, ou Marlene Dixon, qui était une féministe socialiste aux États-Unis. Ils ont utilisé la notion de suprémacisme mâle. C'est un calque de la notion de suprémacisme blanc. Mais je ne dis pas que les autres concepts ne sont pas intéressants, patriarcat, domination masculine, machisme, tout ça. Mais ce que j'aime avec la notion de suprémacisme blanc, suprémacisme mâle, c'est que ça évoque une posture de... La posture du suprémacisme évoque une posture, en fait, de caste, une posture aristocratique. Une posture que des choses nous sont dues. En anglais, on dit « untitled ».« Untitled », c'est-à-dire... C'est difficile à traduire le « untitled » en français, mais ça fait référence à un titre. Quelque chose m'est dû en fonction de mon titre. Et la notion du titre, ici, c'est un terme vieillot, c'est le titre de noblesse. Je suis « untitled », je suis... Quelque chose m'est dû en fonction de mon titre parce que je suis un duc ou parce que je suis un blanc. Dans le suprémacisme blanc, ou parce que je suis un homme dans le suprémacisme mâle. Et cette question de suprémacisme qui nous est induite dans la socialisation masculine, qu'un homme doit s'attendre à certaines choses des femmes, les femmes sont faites pour nous servir, etc., c'est vraiment une posture d'aristocrate, de caste. Et qu'est-ce qu'il y a aussi qui est lié à une notion de suprémacisme et une notion aristocratique de supériorité et aristocratique de caste? C'est la notion... du scandale du crime de lèse-majesté. C'est-à-dire, quand on n'a pas ce qu'on pense qui nous est dû de par notre titre de mâle, c'est un scandale. C'est une crise. C'est une crise de la masculinité, c'est une crise des rapports de genre. On manque de déférence envers nous, on ne nous rend pas le service qui nous est dû et on n'est pas en crise, on fait des crises. Et les crises peuvent être très violentes. Les aristocrates, pensaient qu'il y avait des choses qui leur étaient tellement dues qu'en fait, la plèbe devait se décoiffer devant les aristocrates. Et si la plèbe, si les gueux chassaient sur la terre des aristocrates, on les pendait pour un lapin.
Haut et court.
Aujourd'hui, les célibataires involontaires aux États-Unis, dans le réseau des incels, ils disent « Si je n'ai pas la sexualité qui m'est due en tant qu'homme hétérosexuel, je suis prêt à célébrer, à héroïser un homme qui commet un attentat au nom de cette cause. » Le tueur de l'école polytechnique dont je vous ai parlé tout à l'heure et sur lequel porte le livre de Mélissa Blais, lui, il a été héroïsé. Il y a des gens qui disent que c'est un héros et un martyr de la cause des hommes. Et lui, on considérait qu'en fait, il n'avait pas eu ce qui lui était dû en tant qu'homme, c'est-à-dire une place à Polytechnique, par exemple. C'était la rumeur qui circulait qu'il avait été refusé à Polytechnique. Et donc, cet esprit aristocratique, cet esprit de caste, cet esprit de la supériorité mâle, qui est calqué sur la notion de supériorité blanche, elle vient avec un dernier élément qui est très important dans la notion de suprémacisme, qu'on retrouve dans le suprémacisme blanc et qu'on retrouve dans le suprémacisme mâle. C'est l'idée, en fait, d'identités qui ne sont pas seulement hiérarchiquement positionnées, mais qui doivent rester pures. Dans le suprémacisme blanc, c'est très clair, et dans le suprémacisme mâle, c'est la même chose. C'est cette idée, en fait, et le discours de la crise de masculinité basé là-dessus, c'est l'idée que s'il y a des éléments qu'on prétend être féminins qui entrent en contact avec le masculin, on est face à une pathologisation, une décadence, une intoxication, une crise, parce qu'on pense, en fait, qu'il y a ces deux identités qui doivent rester pures et qui doivent rester séparées.
Alors, cette notion de suprématisme mâle...
Mâle, c'est intéressant.
Moi, je trouve que c'est assez parlant. Quand tu observes certains comportements, certaines réactions chez d'autres hommes, parce que c'est éclairant. Parfois, je me demande pourquoi certains réagissent comme ça. Et possiblement, effectivement, ils ont intégré complètement, ils sont conditionnés par ce qu'évoque Francis Dupuy-Déry. Ils n'en ont même pas forcément conscience, mais on voit au travers des comportements et des mots qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est dû, quoi. Et c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Et je pense que ça conditionne encore beaucoup de relations hommes-femmes dans notre civilisation aujourd'hui.
Ouais, de relations hommes-femmes et hommes plein d'autres personnes.
Tout à fait. on en reparlera. Ouais, c'est évident. C'est évident. Je sais pas, quelque chose d'autre
Non, je trouve que c'était assez éclairant, je trouve. Et puis, moi, j'aime bien cette première émission.
C'est vrai?
Ouais, je trouve qu'elle pose bien les bases, en fait.
Ok, bon, bah écoute, on poursuit éventuellement la semaine prochaine et on va parler phallus, par exemple.
Waouh, cool!
Bon, ça sera pas si cool que ça, à mon avis.
Ah merde.
On se retrouve la semaine prochaine.
Ok.
Salut.
Ciao.